Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Je suis dans le quartier de Harlem, au nord de Manhattan. Alors, je suis devant l'une des salles de spectacle les plus mythiques de New York, des États-Unis et du monde, l'Apollo Theater. Alors, l'Apollo Theater, si jamais on prononce vraiment en anglais, on va garder une prononciation franglaise, on va dire, Apollo Theater pour aujourd'hui. Voilà, ça c'est fait. Puisque on ne va pas encore aller dans les salles de concert, c'est pas pour tout de suite, je vous y emmène par procuration. On va parler musique, mais aussi histoire, dans ce berceau de la culture noire américaine, où sont nés artistiquement Ella Fitzgerald, Stevie Wonder, Diana Ross, Michael Jackson ou encore James Brown. Autant vous dire un concentré de talent pur et d'histoire américaine. Hi everyone. 253 West 125e rue, c'est donc l'adresse de l'Apollo Theater. Apollo avec un P et deux L. Vous avez peut-être déjà vu hein, avec ces grandes lettres rouges pour le nom d'Apollo et puis en dessous, cerclé d'ampoules lumineuses. D'habitude, le nom des artistes ou des groupes qui viennent se produire ici en ce moment. Sont des messages pour les aides-soignants notamment et des messages pour soutenir ceux qui se battent contre le racisme avec notamment Black Lives Matter. Je suis donc à Harlem, on est dimanche fin d'après-midi, il fait plutôt bon pour un mois de décembre, c'est très animé, il y a beaucoup de vendeurs de rue, des petites étales pour vendre des livres, des vêtements, des disques aussi, bien évidemment, puisqu'on est devant l'un des temples musicaux. En ce moment, bien sûr, personne sur scène en raison du coronavirus, mais quelques concerts en streaming. Alors, l'histoire de cette salle débute en 1865, à la fin de la guerre de sécession. Elle change de propriétaire et d'emplacement, et c'est surtout dans les années 30 qu'elle commence à devenir incontournable, notamment pour des dizaines d'artistes talentueux, artistes noirs. À l'époque, on écoutait déjà beaucoup de jazz, notamment au Cotton Club, par exemple, le Cotton Club qui était également situé ici, dans ce quartier d'Harlem. D'immenses artistes noirs s'y produisaient, comme Josephine Baker, Louis Armstrong ou Billie Holiday. C'était pourtant le temple du racisme également, avec une clientèle exclusivement blanche et une succession de clichés racistes. Il y a un film de Coppola qui raconte ça, qui s'appelle le Cotton Club et qui retrace l'histoire de cette salle. Alors nous sommes dans les années 30 et il y aura encore trois décennies de discrimination. Et je vous renvoie cette fois à un autre film plus récent, oscarisé d'ailleurs, Green Book, avec Viggo Mortensen et Mahershala Ali, qui raconte l'histoire d'un pianiste noir dans les années 60, en tournée dans le Midwest et le Sud profond, accompagné par un chauffeur blanc, Viggo Mortensen. Et le Green Book, c'est en fait un guide qui listait à l'époque les hôtels où l'artiste avait le droit de dormir en tant que noir. Alors, revenons à l'Apollo Theater. Au milieu des années 30, c'est l'un des rares endroits à ne pas pratiquer, lui, de discrimination. Et parmi les artistes, la jeune Billie Holiday, et elle va faire sensation avec cette chanson sur l'esclavage qui s'appelle Strange Fruit, ses fruits étranges. Avec ces paroles qui vont choquer l'Amérique raciste, les arbres du Sud portent un fruit étrange, du sang sur leurs feuilles et du sang sur leurs racines. Des corps noirs qui se balancent dans la brise du sud. Un fruit étrange suspendu au peuplier. Les fruits étranges dont parle Billie Holiday, ce sont les corps pendus aux arbres. Les corps de noirs lynchés dans les années 30. Alors un engagement musical assez fort, assez inédit pour l'époque. Une charge puissante contre les suprémacistes blancs. Je disais donc une charge puissante contre les suprémacistes blancs, si vous ne m'avez pas entendu. Elle dira que cette chanson était aussi un hommage à son père, mort notamment parce qu'il a été conduit dans un hôpital réservé aux Blancs à l'époque. On a refusé de le soigner. Et le gouvernement lui mènera la vie dure à cause de cette chanson. Le gouvernement voulait à l'époque qu'elle cesse de la chanter. Et comme Billie Holiday consommait de la drogue, ils le savaient, ils avaient un moyen de pression sur elle. Mais elle ne lâchera pas et elle continuera à chanter Strange Fruit. Alors, l'Apollo Theater va se faire connaître par des soirées assez particulières, en tout cas des soirées originales, une idée assez géniale, le mercredi soir, ce qu'on appelle les soirées amateurs, c'est l'ancêtre de pas mal d'émissions de télé-réalité d'aujourd'hui. Le principe, vous montez sur scène, vous faites une performance, au début c'était de la danse, et de plus en plus c'est devenu des performances vocales. Si le public vous apprécie, eh bien, il vous applaudit, et si jamais il ne vous aime pas, vous êtes hué, une succession de boues. To boo en anglais signifie hué. Le 21 novembre 1934, une jeune orpheline de tout juste 17 ans monte sur scène. Elle s'appelle Ella Fitzgerald. Alors, elle est tétanisée, c'est une catastrophe. Elle est d'abord huée par les spectateurs, et finalement, elle a droit à une deuxième chance qui était assez rare à l'époque. Elle retourne sur scène. Ce sera le début d'une carrière exceptionnelle, l'une des plus grandes chanteuses de jazz, bien évidemment. Miss Ella Fitzgerald. Good luck, Ella. If her voice can bring every hope of spring, that's Judy. Ah, yes. Oh, the shark has curly teeth, dear. Alors, autre début célèbre lors de cette soirée des amateurs, qui existe toujours d'ailleurs, c'est le mercredi à 19h30, pas en ce moment bien évidemment. On passe quelques années et on arrive en 1962, un gamin de 12 ans monte sur scène, il est non-voyant. Écoutez bien, il est présenté par l'animateur de la soirée. C'est la première fois qu'on entend ce nom et pas la dernière. Très vite, hein, il a une présence incroyable, il a de la voix, il a le rythme, le charisme, il deviendra vite une star. À ses débuts, on l'appelle le petit Stevie Wonder. Quelques mois après cette performance, il y a une photo assez célèbre de lui avec Mohamed Ali, qui à l'époque s'appelait Cassius Clay. C'est dire qu'il avait déjà acquis une certaine notoriété. Stevie Wonder qui était à l'un des tout dernier meeting de Joe Biden il y a quelques semaines, 3 jours exactement avant le scrutin, c'était dans le Michigan. Alors on va quand même écouter un peu de Stevie Wonder adulte cette fois, par exemple Sir Duke, hein, 1976. Ces soirées amateurs sont un énorme succès. Le principe, c'est que tout le monde peut tenter sa chance. Alors, il y a des médecins, il y a des commerçants, il y a des employés de maison. Il faut juste pas avoir peur de le faire et ne pas avoir mal à son ego si jamais on se fait huer par toute la salle. En tout cas, dans les années 60, l'Apollo Theater devient l'épicentre de la culture afro-américaine, qui prend un nouvel élan avec les lois antiségrégationnistes de 1964, une date importante. 1964, une date importante aussi artistiquement. Vous avez par exemple eh bien, ce morceau de Diana Ross et Les Supremes. On reste en 1964 avec un autre groupe de femmes noires, un autre morceau qui va sans doute vous rester en tête une partie de la journée. C'est Martha et les Vandellas avec Dancing in the Street. Dancing in the Street, qui sera repris notamment par l'excellent duo Mick Jagger et David Bowie. Alors les années 60, c'est l'âge d'or hein, de l'Apollo Theater, avec notamment les artistes de la maison de disques Motown. En 1967, un jeune groupe vient s'y produire. Il commence à être un peu connu. Alors ce morceau en 1967 n'existait pas encore puisqu'il date de 1969. Vous êtes nombreux à avoir reconnu l'intro derrière moi. Jackie, Toriano, Jermaine, Marlon et Michael, les Jackson 5, bien sûr, avec I Want You Back. Gamin deviendra bien sûr une star planétaire, le roi de la pop, Michael Jackson, qui fera d'ailleurs son dernier concert ici, à l'Apollo Theater, le 24 avril 2002. Un concert organisé notamment par l'ancien président Bill Clinton pour inciter les Américains à voter. Et quand en juin 2009, Michael Jackson meurt, juste avant sa tournée d'adieu, This Is It, des milliers de fans sont venus ici, devant l'Apollo Theater, pour lui rendre hommage. Et ça a été aussi le cas un peu plus récemment avec Aretha Franklin, avec la mort d'Aretha Franklin. Et encore de façon encore plus impressionnante, en décembre 2006, après la mort de James Brown, qui a façonné aussi... l'histoire de cette salle, son cercueil a été transporté en calèche jusqu'à l'Apollo Theater pour que ses fans puissent se recueillir. C'est vrai que James Brown était peut-être l'artiste qui a le plus incarné, qui a fait le plus corps avec l'Apollo Theater. Il y a enregistré deux lives en 1962 et 1968. C'est le père de la musique funk, le parrain de la soul, comme on l'appelait, un bon danseur, électrique sur scène, même quand il ne bouge pas. This is a man world. This is a man world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. In the air. See? Alors James Brown est sorti de la petite délinquance pour devenir incontournable régulièrement. Dans le classement des 10 plus grands artistes de tous les temps. Il chantera également des chansons engagées pour soutenir la communauté afro-américaine, dont ce morceau, Say It Loud, I'm Black and Proud. Dites-le avec force, je suis noir et fier. Alors quand sort ce morceau en août 1968, le contexte est assez tendu. On est juste après l'assassinat de Martin Luther King. Et les émeutes qui ont suivi, le mouvement Black Power prend de l'importance. Et la communauté noire attendait un engagement de sa part. Il le fait avec ce morceau. En revanche, une partie de son public blanc lui reprochera. Alors, je ne vais pas vous faire la liste de tous ceux qui sont venus à l'Apollo Theater. Il y a eu les Beatles, les Rolling Stones, U2. La salle, en tout cas, a eu des hauts et des bas. Au début des années 70, ça va péricliter, paradoxalement, en raison des lois antiraciales, puisque les artistes noirs peuvent se produire dans d'autres salles. Et cette salle a du mal à rester rentable, d'autant qu'il y a seulement 1500 places à l'intérieur à l'époque. Alors elle va fermer en 1976 et rouvrir 10 ans plus tard avec une émission de télévision pour découvrir de jeunes talents avec un nouvel univers musical. Ainsi, en 1987, une jeune fille de 13 ans, elle s'appelle Lauryn Hill, vient tenter sa chance. Alors c'est vrai, hein, il y a quelques problèmes de justesse. Elle est huée, c'est le jeu. Lauryn Hill racontera plus tard qu'elle était pétrifiée. Hein, c'était pas évident de se retrouver sur cette scène. Vous entendez, hein, bien évidemment, les ambulances new-yorkaises. Je reviens à Lauryn Hill, cette jeune fille à l'époque, toute timide, impeccablement coiffée. C'est pas démonté. Elle va encaisser, elle reviendra sur cette scène en tant que star, puisque Lauryn Hill deviendra l'une des icônes de la scène R&B, avec notamment son album The Miseducation of Lauryn Hill. Elle fera également plus tard partie d'un groupe célèbre que vous avez sans doute tous entendu, notamment ce morceau. Voilà, alors malheureusement, on ne peut pas évoquer tous les artistes qui ont fait l'histoire de l'Apollo Theater. Cette lettre envoyée depuis le sud d'Harlem vous donnera peut-être envie de découvrir tous ces artistes qui, ici, ont ouvert la voie à beaucoup de futures stars, y compris des stars contemporaines. Pharrell Williams, par exemple, parle de cette salle comme étant la salle mythique absolue. Alors, j'espère que les bruits annexes vous ont pas trop perturbé et que le son de ma voix était audible, parce que bien évidemment, on est dans une période, comme en France particulière, avec des cas de Covid assez importants. On atteint ce week-end 300 000 morts aux États-Unis, donc bien évidemment, hors de question dans la rue d'enlever son masque, mais je pense que c'était quand même audible. Je vais juste vous passer un court extrait avant de se quitter, parce que l'Apollo Theater a une forte histoire sociale et politique. Je vous parlais de Bill Clinton tout à l'heure, qui était ici avec Michael Jackson. Et en janvier 2012, un autre président est venu sur scène et a fait une courte interprétation, mais qui à l'époque a été évidemment très remarquée. Barack Obama, chanteur. Voilà, c'est court mais prometteur. S'il s'était présenté à une soirée amateur du mercredi soir, peu de chance qu'il ait été hué. Barack Obama qui chante ici le début d'un grand succès de Al Green, Let's Stay Together. Al Green qui a bien sûr lui aussi chanté ses produits ici à l'Apollo Theater. La transition évidemment est toute trouvée pour se quitter en douceur. Je vous souhaite les meilleures fêtes de fin d'année possible. J'espère qu'en 2021, je pourrai vous envoyer des lettres d'Amérique après avoir vu un spectacle et pas seulement en restant sur le trottoir. Thank you and goodbye. venez d'écouter Une lettre d'Amérique. Retrouvez tous les numéros de ce podcast et l'ensemble de notre offre sur l'application RTL, mais aussi désormais sur l'application Audio Now, AUDIONOW, et toujours bien évidemment sur vos plateformes préférées.